Secret d'info, Jacques Monin.
Il y a beaucoup trop de secteurs français de l'économie qui sont obscurs, où les transactions sont peu claires. Eh bien, il faut que tout cela soit transparent. L'argent qui crée, c'est bien. L'argent qui corrompt, il faut combattre.
L'argent qui corrompt, il faut combattre. Vous avez sans doute reconnu Michel Sapin, c'était en 1993. Le vœu était louable, sauf que la France n'arrive toujours pas à mettre un terme aux pratiques douteuses de certains de ses plus grands groupes. Et le résultat, eh bien, c'est que 23 ans plus tard, le même Michel Sapin, de nouveau ministre des Finances, va, à la fin du mois, présenter un nouveau plan de lutte contre la corruption. Bonsoir Mathieu Aron.
Bonsoir Jacques Monin.
Alors c'est vous qui menez l'enquête ce soir, et peut-être pour commencer un constat assez sévère. D'ailleurs, en matière de lutte contre la corruption, la France est un très mauvais élève.
Oui, c'est indéniable, tout du moins si l'on parle de la grande corruption, hein, celle qui concerne les marchés à l'étranger. Et cette situation est d'autant plus préoccupante que depuis l'année 2000, la France a pourtant ratifié une convention qui interdit normalement les pots de vin ou les marchés truqués.
Oui, une convention dont beaucoup, disons les choses, se fichent éperdument.
En réalité, un autre pays semble vivre comme dans une autre époque, on est tout simplement nul. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de Transparency International, Daniel Lebeg, à qui j'ai demandé combien d'entreprises notre justice avait condamné pour corruption à l'étranger ces 15 dernières années. Écoutez sa réponse.
Zéro. Zéro. La France n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre d'une entreprise pour des faits de corruption internationale. Dans le même temps, la justice américaine a prononcé une centaine de condamnations. L'Allemagne est à plus de 50, le Royaume-Uni à une trentaine, mais d'autres pays manifestent leur capacité à sanctionner ce type de délit.
Et nous, on n'y arrive pas donc. Mais comment expliquer une telle différence de traitement entre les pays? Comment se fait-il que notre justice soit si inefficace?
Manque de moyens, en partie, mais surtout manque de volonté. Et puis, il y a aussi le poids du passé. C'est peu connu, mais il faut savoir que jusqu'en l'an 2000, les autorités françaises fermaient les yeux sur la corruption à l'international. Elles considéraient que ces pratiques permettaient tout simplement à nos entreprises d'obtenir des contrats. Jean-Jacques Promcy, ancien directeur commercial de la Lyonnaise des Eaux, a bien connu cette époque qui n'est pas si lointaine.
Je vous rappelle que jusqu'en l'an 2000, la France tolérait, pour ne pas dire encourageait, les entreprises françaises à payer des bakchiches à l'étranger et nous allions tous les ans aux douanes déclarer les sommes que nous avions données. Et nous disions le nom des gens auxquels nous les avions donnés, sauf quand nous refusions de le faire pour des raisons de confidentialité, et c'était déductible des impôts.
Vous avez été aux douanes ?
Oui. Je peux vous rappeler aussi que jusqu'à l'an 2000, finalement c'est bien là le tournant, les ministres de la République française étaient payés pour partie en argent liquide, sur lesquels ils ne payaient pas d'impôts ni de cotisations. C'est-à-dire que c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui un délit extrêmement grave.
Oui, si j'entends bien, corrompre après tout, c'était normal et c'était quasi généralisé.
Oui, et pour s'en convaincre, eh bien écoutez cet autre témoignage, celui d'Éric Dénessé. Il est aujourd'hui directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, mais il y a 20 ans, il était ingénieur commercial dans l'armement.
J'avais des fiches contrats sur lesquelles j'avais un poste de 15% de FCE, c'était les frais commerciaux exceptionnels. Si quelqu'un de l'armée de l'air à Boudabienne venait en France et que, pour être sûr d'avoir le contrat, il voulait qu'on lui loue une Porsche avec des sièges en cuir et qu'il y ait peut-être une jeune femme à corte sur le siège de droite, eh bien, ces dépenses rentraient dans le cadre des frais commerciaux exceptionnels qui, encore une fois, étaient déclarés par l'entreprise à Bercy.
Oui, on croit quand même rêver. Alors, est-ce que, Mathieu, ça veut dire pour autant que la France est un pays particulièrement corrompu ?
Soyons très clairs, ni plus ni moins que nos voisins. Écoutez par exemple ce petit comparatif européen que nous dresse Éric Dénessé.
L'idée qu'on a souvent en France, c'est que nos amis italiens, espagnols, parce que c'est des pays du Sud, sont beaucoup plus corrompus et corrupteurs que nous. Et puis à l'opposé, les Allemands, les Suédois et les Norvégiens sont des gens très bien qui ne font rien. Ça, ce sont vraiment des idées reçues. Les Suédois qui lavent plus blanc que blanc chez eux sont parmi les pires corrupteurs sur les marchés internationaux que compte l'Europe. Les Allemands sont loin d'être des saints. Et les Italiens sont pas du tout les plus en pointe nécessairement sur ces dossiers-là. Donc en France, nous ne sommes pas parmi les pires des corrupteurs. Seulement, notre culture, c'est un petit peu comme en politique, on accepte accepte qu'un homme politique président ait des maîtresses, eh bien, dans les affaires, on accepte qu'effectivement, on mette de l'huile dans les rouages et qu'il y ait de l'argent qui circule pour gagner des contrats.
Oui, on s'accommode de la corruption en quelque sorte. Et il est vrai que, bien qu'ils soient interdits, on l'a dit, hein, de corrompre à l'international depuis 2000, bah, ça continue.
Oui, c'est très clair. Sauf que, comme la France et d'autres pays européens ne faisaient rien pour mettre un terme à cette corruption, eh bien, les États-Unis se sont institués comme les gendarmes du monde. Ils ont considéré que leur législation anticorruption pouvait s'appliquer, eh bien, sur tous les continents.
Et du coup, donc, ce sont eux qui font le ménage. Maintenant, comment est-ce que les Américains, Mathieu, exercent ce rôle de super gendarme?
Eh bien, la justice américaine, aidée du FBI, enquête et épingle les unes après les autres les plus grandes sociétés françaises. Technip, Alcatel, Total et la dernière en date, Alstom, se sont vus infliger d'énormes amendes. Les Américains frappent vraiment très fort. Je vous propose d'entendre la déclaration de James Cole, le procureur général adjoint des États-Unis, au moment où il annonce les sanctions contre le groupe Alstom.
Les actions de corruption d'Alstom se sont développées pendant plus d'une dizaine d'années et à l'échelle de plusieurs continents. Son ampleur était énorme, autant par sa rapidité, son rayonnement, que ses conséquences au niveau mondial. Alstom a accepté de plaider coupable de ces accusations, de reconnaître sa conduite criminelle et de payer une amende de plus de 772 millions de dollars. Ce sera la plus importante amende infligée à une entreprise étrangère pour corruption dans toute l'histoire du département américain de la justice.
Oui, la plus grosse amende jamais infligée dans l'histoire américaine pour une affaire de corruption. Oui, ça, ils rigolent pas les Américains.
Non, pas vraiment, car ils poursuivent dans les affaires de corruption, mais pas uniquement. Ils ont aussi aligné des banques françaises dans des affaires de violation d'embargo, comme la BNP, à qui ils ont infligé près de 8 milliards de pénalités.
Oui, mais ça ne s'arrête pas là. En plus de cette méga amende, ils ont imposé à la BNP des mesures de contrôle extrêmement sévères.
La banque a été obligée de mettre en place à New York une unité de contrôle interne placée sous l'autorité d'un magistrat américain, une cellule qui doit vérifier la légalité de toutes les transactions effectuées en dollars par la BNP dans le monde entier. Le président de Transparency International, Daniel Lebeg, nous décrit comment fonctionne cette cellule.
Une cellule qui comprend aujourd'hui une cinquantaine de personnes rémunérées par la banque et qui reçoit donc, sous le contrôle du juge américain, toutes les opérations réalisées partout dans le monde par le groupe BNP Paribas. Donc c'est un dispositif très lourd, très contraignant, mais c'est humiliant. C'est humiliant pour notre pays, pour notre justice, pour nos entreprises même.
Humiliant, nous dit donc Daniel Lebeg, mais on ne peut pas s'opposer aux Américains ?
La réponse est très clairement non, parce que les Américains s'estiment compétents pour poursuivre n'importe quelle entreprise dans le monde, et ce même si, comme nous le détaille Éric Denessé, elle n'a aucun lien avec les États-Unis.
Une entreprise française qui aujourd'hui gagne un contrat contre une entreprise italienne sur un marché en Albanie, en ayant fait la transaction en euros, donc n'ayant pas battu une entreprise américaine sur un appel d'offres, et ayant eu le malheur d'échanger 5 mails par un fournisseur d'accès américain, est judiciable d'une poursuite de la part de l'État américain parce que la justice américaine considère que le fait que seulement 5 mails ayant transité par le territoire américain, ça lui donne un moyen d'action sur les entreprises étrangères. C'est sur le plan juridique absolument scandaleux. Le jeu est pervers, c'est que c'est un détournement moral. Les Américains, au nom d'une lutte contre la corruption qu'ils détournent et qu'ils contournent même, font en fait de la croissance externe, de la conquête de marché.
Derrière ce combat contre la corruption, si j'entends bien, il y a aussi une guerre économique et la France se laisse faire sans rien dire ?
Eh bien, jusqu'ici, oui, nos entreprises ont quand même payé près de 10 milliards d'amendes au fisc américain jusqu'à ce que le gouvernement décide de réagir. Il va présenter un tout nouveau dispositif anticorruption, c'est dans quelques semaines.
Avec, Mathieu, une mesure qui est assez révolutionnaire en France.
Une sorte de copier-coller du système américain, un plaidé coupable à la française. Les entreprises qui reconnaîtraient leur tort se verraient proposer une transaction, ce qui éviterait des poursuites pénales et un procès. Alors c'est un système très courant aux États-Unis, nous rappelle Fred Heidbender, avocat et ancien directeur juridique.
Pourquoi on a ça ? C'est des raisons purement pragmatiques. Dans nos affaires, pénales ou civiles, il y a le jury. Ça prend beaucoup de temps. Donc, dans les affaires normales pénales ou dans les affaires normales, ordinaires, civiles, la quasi-totalité des affaires se termine par une transaction. 98%. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a trop d'affaires et donc c'est par ce pragmatisme qu'il y a les transactions. C'est par la force des choses qu'il y a les transactions. Et je pense que ça, c'est la situation en France aujourd'hui, par la force des choses.
Oui, la force des choses. C'est vrai qu'il y a quand même un point commun, au moins entre la France et les États-Unis, c'est que des poursuites, ça peut durer très longtemps.
Oui, parfois jusqu'à 10 ans. Et c'est une des raisons qui explique pourquoi, dans notre pays, il y a si peu de condamnations. La transaction qui serait mise en place permettrait donc d'aller beaucoup plus vite. Un très bon système, selon l'ancien directeur commercial, Jean-Jacques Promcy.
Moi, je suis plutôt pour. Ça fait gagner un temps précieux. Quand on pense aux années qu'il a fallu pour que la pollution de l'Erika, par exemple, se traduise par des chèques pour les gens qu'il convenait d'indemniser, il est certain que tout système qui ira plus vite, qui sera frappé du bon sens et pas... du gendarme est bienvenu. Je suis tout à fait pour.
Oui, pour, dit cet ancien directeur commercial au nom du pragmatisme. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce point de vue, c'est aussi celui du MEDEF, l'organisation patronale qui applaudit à ce dispositif.
Il faut dire que pour une entreprise, cela évite une instruction, un procès et donc une atteinte à sa réputation. Il lui suffira en quelque sorte de payer pour réparer un arrangement, appelons ça comme ça, qui en revanche choque Eric Halt. Il est magistrat et vice-président de l'association Anticor.
Je ne pense pas que la solution soit celle de permettre la transaction juridictionnelle à l'américaine, c'est-à-dire la corruption sans peine. Corruption qui ne serait sanctionnée que par l'argent et les entreprises seraient quittes dès lors qu'elles entreraient en négociation avec le parquet et qu'elles conviendraient d'une somme à payer. Les entreprises seraient quittes, ayant payé cette somme, de tout le reste. Quel spectacle ça donnera à nos concitoyens, aux justiciables, en comparution immédiate, des gens qui sont condamnés pour de petites affaires et qui verront que de grandes entreprises ont réussi à échapper à toute peine, moyennant finance.
Oui, ce système créerait donc une forme d'injustice, mais c'est pas la seule critique qu'on peut lui faire, Mathieu.
Non, des juristes s'interrogent, car souligne-t-il, aux États-Unis, ce dispositif fonctionne parce que la transaction est une quasi-obligation. En effet, en cas de refus, selon le juriste américain Fred Eidbinder, la menace est terrible.
La raison que les entreprises sont prêtes et les individus à faire une transaction, parce qu'ils ont peur, aussi simple que ça, d'aller devant un procès où ils vont perdre, où ils vont être condamnés. Et ça, c'est un point très important. Si en France, la loi a comme objet ou comme effet qu'il n'y aura pas de procès, qu'il n'y aura pas de condamnation, ça ne marchera pas. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'il y ait une sanction.
En fait, il faut une sorte de menace, c'est ça, c'est ce que vous nous dites.
Absolument, absolument.
Et c'est bien toute l'ambiguïté du nouveau dispositif proposé par le gouvernement. Comme jusqu'à présent, il n'y a pas eu de condamnation, la menace pour les entreprises est donc toute relative.
Ouais, et puis, Mathieu, certains redoutent aussi qu'en copiant les Américains, nous nous soumettions finalement à une culture juridique qui est aux antipodes de la nôtre.
Et que nous donnions les clés du système à une pléiade d'avocats d'affaires grassement payés. C'est ce que craint en particulier Claude Revel, l'ancienne déléguée à l'intelligence économique, auprès du Premier ministre.
Avant de faire du copier-coller de droit étranger, on pourrait d'abord essayer de réformer notre droit dans sa propre culture, dans son propre système, qu'il n'y ait pas qu'un seul système dominé par les lawyers, parce que c'est un système qui est quand même dominé par le business du droit. Les grands cabinets anglo-saxons, ils ont tout intérêt à pousser cette méthode des deals, puisque c'est eux qui les font. Donc est-ce qu'on veut ça, cette privatisation en fait, de la décision qui devient une négociation? Ou bien est-ce qu'on veut qu'il y ait quand même un juge qui représente le peuple, etc., qui juge? On n'est pas assez fiers, je dirais, de notre droit. Si on a un seul système qui s'impose au monde, c'est mauvais.
Enfin, il existe un dernier reproche fait au système de transaction à l'américaine. Pour le professeur de droit Antoine Garapon, le bénéfice retiré des amendes n'atterrit pas forcément dans les bonnes poches.
Cet argent ne revient pas aux victimes. Les victimes du Bangladesh qui ont souffert de la corruption entre Siemens et l'agence nationale de téléphonie, qui ont eu des communications plus chères, etc., ne vont pas être indemnisées. C'est-à-dire que les victimes de la corruption, qui sont les premières personnes qui devraient être aidées, et souvent qui viennent de pays émergents ou de pays en voie de développement, qui ont beaucoup de difficultés avec la règle de droit, comme on dit, eh bien, ne vont pas sortir ni enrichi, ni réconforté par cette politique.
Alors Mathieu, on va évoquer maintenant un autre volet de ce plan anti-corruption du gouvernement. Il concerne, lui, les lanceurs d'alerte qui vont être mieux protégés.
Oui, une agence anti-corruption va être créée, une agence qui va proposer un soutien juridique aux lanceurs d'alerte. Alors, pour bien comprendre la nécessité de cette protection, je vous propose de nous intéresser à l'histoire de Stéphanie Gibaud. En 2008, elle travaillait dans la banque d'affaires UBS avec une mission, organiser des réceptions pour de riches clients, jusqu'au moment où...
Une perquisition a eu lieu dans la banque, dans le bureau du directeur général, et ma supérieure hiérarchique me demande, suite à cette perquisition, de détruire une partie de mon disque dur, puis le contenu de mes armoires d'archives. Donc tout ce que j'avais fait à la banque depuis que j'y étais, donc depuis 8 ans.
Et alors, est-ce qu'elle les a détruites, ces archives, Mathieu Aron ?
Non, au contraire, elle ne détruit pas ces documents, elle les analyse et finit par comprendre le système UBS, comment des chargés d'affaires de la banque viennent en toute illégalité en France, démarcher des clients pour les inciter à cacher leur argent dans des paradis fiscaux. Stéphanie Gibaud décide alors d'interroger ses responsables chez UBS.
La seule chose que j'ai su faire, c'est poser des questions en interne, lors de réunions. Et là, UBS a commencé à se braquer contre moi. J'ai discuté avec des amis juristes à l'extérieur de la banque qui m'ont conseillé de voir l'inspection du travail. L'inspection du travail m'a conseillé, elle, de porter plainte contre UBS. Et c'est ce que j'ai fait en 2009. Et puis, nous sommes en 2016. Donc, ça fait 7 ans que je vis un véritable cauchemar, puisque... Je suis sortie de la banque en février 2012, il y a exactement 4 ans. Mais écoutez, ça a été isolement, harcèlement, placardisation, discrédit.
Discrédit, cauchemar. Qu'est-ce qui lui est arrivé précisément, Mathieu Aron ?
Eh bien, entre autres, et c'est un peu le monde à l'envers, UBS poursuit la lanceuse d'alerte devant les tribunaux pour diffamation. Or, les faits qu'elle a révélés ont bien permis de faire progresser l'enquête pénale contre UBS.
Et dites-moi, cette jeune femme, est-ce qu'elle a tout de même eu au moins une compensation de la part des autorités ?
Pas vraiment. Elle a simplement touché 30 000 euros au prud'homme et ça a juste couvert ses frais d'avocat.
Alors justement, le projet Sapin, lui, prévoit d'apporter une assistance juridique aux lanceurs d'alerte, en clair, prendre en charge les frais d'avocat. Mais est-ce qu'il est envisagé de les rémunérer ?
Alors là, pas du tout. Et Stéphanie Gibaud le regrette quand elle compare avec les traitements que reçoivent les lanceurs d'alerte aux États-Unis.
Les lanceurs d'alerte sont rémunérés à hauteur de 13 à 17% des sommes recouvrées par le fisc américain.
Ce qui fait qu'aux États-Unis, il y a quelqu'un chez UBS qui, du coup, lui, a gagné beaucoup d'argent en dénonçant, en étant le lanceur d'alerte.
Absolument, c'est-à-dire Bradley Birkenfeld, en 2009, a reçu un chèque de 104 millions de dollars en sortant de prison, parce que donc, avec cette affaire, il a été obligé de faire 30 mois de prison. Il a fait 30 mois de prison et a gagné 104 millions de dollars. Je lui disais l'autre jour, finalement, je préférerais être à ta place. Moi, j'ai pas fait de prison, mais la prison dans laquelle je suis depuis 2008, c'est une prison où il n'y a pas de barreaux. En apparence, tout va bien. En apparence, je suis une femme comme les autres. J'ai des enfants, je prends le métro, je vis à Paris. Et qu'en fait, j'ai une vie qui est plus du tout celle d'un citoyen normal, puisqu'aujourd'hui, ma vie, c'est surtout une survie. Les minima sociaux depuis l'été 2014, donc ça fait 18 mois maintenant, une impossibilité d'être employé dans une entreprise quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que pour des chefs d'entreprise, vous êtes juste un délateur, vous êtes juste un collaborateur dont il faut absolument se méfier, parce que la responsabilité sociale dont tout le monde parle en ce moment, c'est juste en fait un aspect communication.
Bon alors, en définitive, Mathieu, est-ce qu'on peut penser que cette loi Sapin 2 va vraiment faire reculer la corruption ?
Écoutez, il y a les textes, il y a la loi, et puis il y a les pratiques, la culture d'entreprise. Or, à en croire l'ancien responsable de la Lyonnaise des Eaux, Jean-Jacques Promsy, on est loin, très loin, d'avoir changé les mentalités.
Un directeur commercial européen qui rentrerait à Berlin ou à Paris ou à Londres et qui dirait autour de la table d'un conseil d'administration « Nous n'avons pas l'affaire de 20 milliards dans le Pacifique parce que j'ai refusé de payer un voyage en avion au ministre des Affaires étrangères » serait lapidé par les syndicats, viré par le conseil d'administration et déclencherait un immense éclat de rire dans l'ensemble de la planète. Nous le disions à nos élèves en école de commerce, si vous voulez ne pas être confronté à ce genre de problème inévitable, choisissez un autre métier que celui de vendre des fusils, des tanks, des avions ou un certain nombre d'autres choses.
Ouais, on pourrait en sourire, mais c'est un peu désespérant d'entendre ça. Alors en même temps, ce directeur commercial, il n'est plus en activité aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas tout de même rêver, penser que les choses vont finir par bouger ?
Ce sera peut-être avec l'arrivée de nouveaux dirigeants que des progrès peuvent être réalisés en matière de lutte contre la corruption. C'est du moins l'espoir de Blandine Cordier-Palas, qui dirige un cabinet de recrutement juridique pour les grandes firmes.
Je pense que ça va aussi être lié à un changement de génération. Parce que on observe dans les cadres, ils sont beaucoup plus dans l'attente de ces changements de paradigme. Ils sont beaucoup moins dans le « on a toujours fait comme ça, donc on peut pas changer ». Les cadres ont beaucoup plus une conscience du risque, une conscience du risque mesuré.
C'est parce qu'ils sont plus sensibles aux risques qu'ils encourent, oui, en cas d'affaires de corruption. Ou c'est parce qu'ils sont plus sensibles au fait qu'il faut lutter contre la corruption ?
Ils ont l'exemple d'autres groupes dans lesquels certains dirigeants sont épinglés, donc ils ne veulent pas être arrêtés un jour où ils passent la douane. Donc ils sont beaucoup plus conscients de ce risque-là.
Vous voyez, Jacques Monin, au-delà des grands principes, au-delà de toute question de morale, en matière de lutte contre la corruption, c'est bien la peur du gendarme qui est l'arme la plus dissuasive.
Merci beaucoup Mathieu Aron pour cette enquête, mais vous restez avec nous puisque dans un instant, on va se téléporter à Bercy où le ministre des Finances nous a reçus pour s'expliquer justement sur toutes ces questions que nous venons de soulever.